Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
On est sur un dispositif avec la possibilité d'aller se faire tester en laboratoire pour avoir un dépistage efficace pour toute la population.
À la recherche des clusters dormants, le gouvernement élargit sa politique de dépistage. Vous recevrez peut-être chez vous une invitation à aller vous faire tester.
30 communes d'Île-de-France vont expérimenter justement cette nouvelle stratégie.
Quel salaire pour les soignants? 6 milliards d'euros à partager entre public, EHPAD et hôpitaux privés. Les personnels attendent toujours les détails.
La colère des avocats, plusieurs ténors du barreau ont vu leur relevé téléphonique épluché littéralement par la justice dans une enquête visant Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth, vous vous souvenez?
C'est scandaleux, ces gens-là s'autorisent tout. Et moi je dis qu'il est grand temps maintenant de les arrêter.
Dans ce journal aussi, le laboratoire Merck condamné pour faute pour avoir changé la formule du Lévothyrox.
Et Google qui ne conservera plus l'historique de nos recherches au-delà de 18 mois. Enfin, grimper 2 étages de la tour Eiffel par l'escalier et par 35 degrés, ça vous dit? Je vous assure, la récompense vaut la peine.
Voilà, de toute façon, j'avais tout donné. J'avais plus rien dans le coffre. Regardez les petits jardins partout sur les toits, c'est pas mal.
Voilà, la dame de fer qui a rouvert aujourd'hui. La bourse de Paris rebondit de 0,97% à 4 918 points.
Et Anissa est avec nous. Bonsoir Anissa, le temps de ce vendredi.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien après une journée de forte chaleur encore aujourd'hui, demain les températures se maintiennent, mais surtout ce qui est à retenir, c'est que les orages envahissent le pays. Toutes les régions ou presque seront touchées. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est un changement très net dans la stratégie de lutte contre l'épidémie en France. De nombreux médecins le réclamaient, demandaient à dépister beaucoup plus largement. Encore ces derniers jours, des millions de tests dorment dans les placards des labos et risquent même de périmer. C'est donc un coup d'accélérateur qui va être donné. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Alors l'idée, c'est d'aller chercher des foyers, des clusters qui seraient dormants, qu'on n'aurait pas encore identifiés.
Oui, on va cibler des zones proches des foyers d'infection connus et les autorités de santé vont inviter tous les habitants à se faire tester. L'objectif, c'est de mettre la main sur les asymptomatiques. Tous ces cas que l'on ne connaît pas, mais qui contaminent d'autres personnes. Eh bien, on veut casser ces chaînes de contagion en incitant tout le monde à pousser la porte d'un laboratoire.
Et ça va commencer d'abord en Île-de-France ?
Ça va commencer en Île-de-France, exactement. Expérimentation dans les prochains jours dans une trentaine de communes. 1 300 000 personnes vont recevoir un courrier. Ce sera un bon de l'assurance maladie pour un test gratuit. Une campagne très importante, selon Marion Verguelen, directrice de l'Association des maires d'Île-de-France.
On a notamment des populations qui n'ont pas forcément accès très facilement à des soins. Il y a des territoires qui ont très peu de médecins. Donc là, on est sur un dispositif avec la possibilité d'aller se faire tester en laboratoire. Donc c'est important que le sujet financier ne soit pas un frein pour avoir un dépistage efficace pour toute la population.
L'expérience, dit Olivier Véran, pourrait ensuite être étendue à d'autres régions. Pour l'instant, en Île-de-France, les villes, nous dit-on, sont choisies selon 3 critères, le niveau social, le taux de positivité du virus et la demande en test de la population.
Les précisions de Pauline Jacquot pour Europe 1, et cela au moment où l'OMS se dit inquiète d'un rebond des cas en Europe. Les cas de contamination à l'échelle du continent repartent à la hausse pour la première fois depuis plusieurs mois. Inquiétude aussi aux États-Unis où le Texas stoppe son processus de déconfinement ce soir. On va y revenir à 19h sur place avec Xavier Yvon.
Aujourd'hui, la pression de l'épidémie s'est bien relâchée sur les soignants et c'est la négociation sur les salaires à l'hôpital qui entre dans le dur.
On connaît maintenant le montant de l'enveloppe prévue par le gouvernement. 6 milliards d'euros pour des hausses de salaires qui doivent s'appliquer à partir du 1er juillet. Une somme qu'il faudra partager entre l'hôpital public, les EHPAD, mais aussi le privé. Alors que restera-t-il sur chaque fiche de paye? Aucun détail n'a encore été donné. Arthur Mbaché, vous êtes à l'hôpital de Strasbourg et ça fait encore beaucoup de points d'interrogation.
Et la question qu'ici à l'hôpital tout le monde se pose, c'est 6 milliards, d'accord, mais pour qui, infirmiers, aides-soignants et les brancardiers comme moi par exemple, se demande Joseph.
J'ai un salaire brut de 1008, mais j'ai derrière déjà 30 ans de service. J'attends les faits réels parce que pour l'instant c'est que des annonces. Je suis assez pragmatique, moi j'attends.
Doris a passé un printemps au front en mode chair à canon, dit-elle, elle est infirmière anesthésiste.
Ma toute première réaction, je me dis comment que ça va être distribué, qu'est-ce qu'ils en font. Si c'est pour tout le monde, c'est pas énorme, c'est pas grand-chose. Si c'est que pour les soignants ou si c'est pour tous les hospitaliers, parce qu'on est quand même très nombreux dans la France, c'est 6 milliards.
Jean-Claude Matry dirige la CFTC des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Alors 6 milliards d'euros, c'est bien, mais c'est pas assez.
Le soignant, oui, mais un hôpital ne fonctionne jamais sans les autres, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient aides-soignants, qu'ils soient ASH, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient informaticiens, c'est toute une chaîne qui doit être récompensée, quelle que soit leur, leur profession.
Sans compter l'hypothèse selon laquelle une part du gâteau serait réservée au secteur privé.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 en ligne depuis l'hôpital de Strasbourg.
Et un nouvel appel à la grève est lancé par les soignants pour mardi prochain, le 30 juin. Un mouvement auquel se joindront les médecins qui pointent les très faibles avancées du Ségur de la Santé. On y revient avec mon invité à 18h20, Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, justement.
Et puis autre rendez-vous sur Europe 1, le ministre de la Santé, Olivier Véran, répond demain matin à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard. Nous devons sortir de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet. Mais pour l'instant, ça bloque. Pas d'accord entre députés et sénateurs, et notamment sur la question des restrictions qui pourraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin du mois d'octobre, parce que les sénateurs ont refusé de valider. Du coup, retour à la case départ à l'Assemblée mardi prochain.
Le laboratoire Merck a commis une faute. Voilà, en tout cas, ce qu'a dit la justice. Une faute en changeant la formule de l'un de ses médicaments, le Lévothyrox.
La cour d'appel de Lyon a donné raison aux patients qui accusent le médicament d'avoir provoqué de multiples effets secondaires. Ils se voient reconnaître un préjudice moral et le laboratoire devra leur verser 1 000 euros chacun. Écoutez la porte-parole de ces 3 300 plaignants, Brigitte Courville.
À soulager. Je dirais pas que c'est une grande victoire, mais on était entendus. On n'est pas des malades imaginaires comme on nous l'a fait croire, comme Madame Buzyn, qui était à l'époque ministre de la Santé, souriait vraiment ironiquement devant notre état et ne voulait pas le reconnaître. On n'est pas des malades imaginaires. On a eu des symptômes, on ne savait pas d'où ils provenaient. Et la reconnaissance, c'est énorme. L'argent, que ce soit 10 000 euros, 1 000 euros, 1 euro, c'est être reconnu. Comme victime, on a souffert. On est une victime des lobbies pharmaceutiques. Et là, maintenant, je pense que les gens sont un peu plus portés sur le côté lobby des labos. Bon, il y a Servier, hein, qui était le premier. Maintenant, il y a Merck. Voilà, ça vaut le coup de se battre quand même. Ça vaut le coup de se battre. On n'abandonne pas, on lâche pas, on continue.
Un propos recueilli par Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1.
18h07 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. Et on en vient maintenant à l'affaire qui secoue aujourd'hui le monde de la justice. Tollé chez les avocats, notamment chez un certain nombre de ténors du barreau, ulcéré de s'être fait espionner par le parquet financier.
Et plus précisément, ce sont les relevés téléphoniques de plusieurs avocats pénalistes qui ont été épluchés par des magistrats du parquet national financier, et cela pour tenter d'identifier une éventuelle taupe qui aurait informé à l'époque un certain Nicolas Sarkozy ou son avocat Thierry Herzog du fait qu'ils étaient sur écoute. Chloé Triomphe, à l'époque, les juges enquêtent sur l'affaire Bettencourt.
Oui, et dans cette affaire, les juges enquêtent sur un possible trafic d'influence de l'ex-chef de l'État qu'il soupçonne de vouloir corrompre un haut magistrat en échange d'informations sur l'avancée de cette enquête Bettencourt. Voilà pour le cadre dans lequel ils écoutent donc les conversations téléphoniques de Nicolas Sarkozy et de son avocat qui ont ouvert une ligne sous un autre nom, celui de Paul Bismuth. Or, un certain 26 février 2014, les deux hommes changent radicalement d'attitude et font preuve au téléphone d'un rétropédalage tel que les enquêteurs et les juges sont persuadés que quelqu'un les a alertés qu'ils étaient sur écoute. Alors d'où vient la fuite? Du parquet, d'un autre avocat? C'est dans ce but que le parquet national financier ouvre très discrètement une enquête et vérifie les appels entrants de ses propres magistrats et surtout demande les factures détaillées de plusieurs grands cabinets d'avocats, dont celui de Maître Dupont-Boretti.
Mais ce sont des méthodes barbouzardes qui sont absolument indignes. Moi, je dénonce depuis quelques années une vraie dérive. Il y a quelques juges, je dis bien quelques juges, qui s'affranchissent de toutes les règles. C'est scandaleux. Ces gens-là s'autorisent tout. Et moi, je dis qu'il est grand temps maintenant de les arrêter. Je vais la déposer, cette plainte. Je ne sais pas si elle aboutira. Je vais la déposer pour une atteinte à l'intimité de ma vie privée. Je vais la déposer pour une violation de mes correspondances et je vais la déposer pour une violation de mon secret professionnel. Moi, je suis scandalisé.
Une affaire dans l'affaire qui pourrait inciter les avocats de la défense de Nicolas Sarkozy à demander le report du procès prévu en novembre prochain.
Les précisions de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Et Nicolas Sarkozy a réagi aujourd'hui via un message sur Twitter. Il demande à ce que toute la vérité soit rétablie sur les circonstances qui ont permis, je cite, « cette invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements ». Voilà ce qu'écrit l'ancien président.
Et on va y revenir avec les grandes voix à 18h30 parce qu'après les révélations d'Elia Noulette la semaine dernière sur les pressions lors de l'enquête Fillon, c'est au tour donc du parquet de faire l'objet de révélations pour le moins embarrassantes.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 18h, Google sait-il tout de nous? Le géant américain décide de s'engager à supprimer toutes nos données au bout de 18 mois.
Et puis on vous emmène à la Tour Eiffel, mais attention, par l'escalier et avec un masque par 35 degrés. Courage.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Cela nous est arrivé à tous, de tomber sur une publicité ciblant exactement la dernière recherche qu'on a fait sur Internet et Google retire tout, retient tout.
Jusque-là, il retenait tout, même à vie. Et ce qui va changer aujourd'hui, c'est que le géant américain va effacer toutes nos données personnelles, toutes les traces que nous laissons automatiquement au bout de 18 mois, un an et demi. Clément Le Saff, concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien pour nous ?
Eh bien, ça va nous simplifier la vie et en quelque sorte, ça va nous redonner un peu de pouvoir à nous, internautes. Il faut bien comprendre que Google suit à la trace notre activité sur Internet. Il peut dire où nous sommes allés grâce à Google Maps, il a la liste des vidéos que l'on a regardées sur YouTube, il connaît notre historique de navigation si on utilise Google Chrome et évidemment, il sait ce qu'on a cherché sur son moteur de recherche. Jusqu'à présent, par défaut, ces données n'étaient jamais supprimées, sauf action de notre part, sauf qu'il faut être honnête, beaucoup de gens ne sont pas au courant que c'est possible ou ne savent pas comment le faire. Il faut aller dans les paramètres des sites ou des applications, choisir sa préférence entre effacement tous les 3 mois ou tous les 18 mois. Faute de choix, eh bien Google les gardait à vie. Et bien désormais, nos données seront effacées par défaut au bout de 18 mois. Pendant ce délai, Google peut quand même les utiliser selon son bon vouloir. C'est une manne financière. Ces données, elles sont revendues aux marques pour faire de la publicité et elles rapportent des dizaines de milliards de dollars à Google chaque année. Mais cette utilisation, justement, très débridée, était de moins en moins acceptée. Aux États-Unis et en Europe, Google était sous pression depuis quelques temps. Dernier exemple en date, en France, poursuivi par la CNIL, Google va devoir payer une amende de 50 millions d'euros pour ne pas justement avoir suffisamment bien informé les utilisateurs sur l'utilisation qui est faite de leurs données.
Voilà, comme quoi frapper au portefeuille, ouais, ça marche.
Ça
merci.
Fait bouger les choses.
Clément Le Saff du service économie d'Europe 1.
Le chômage en France a un niveau très élevé. Les chiffres de Pôle emploi publiés aujourd'hui pour le mois de mai indiquent une baisse, mais attention, une baisse en trompe-l'œil en fait.
Ouais, moins 3% pour les chômeurs qui n'exercent aucune activité, mais cela s'explique surtout par le retour en nombre vers une activité qui reste partielle. En fait, au total, on compte plus de 6 millions de chômeurs, un plus haut historique, et le deuxième semestre s'annonce très dur sur le front de l'emploi.
Ils ont eu la Tour Eiffel pour eux, rien que pour eux, sans la foule des touristes et sans la file d'attente. Le rêve, hein, la Dame de Fer a rouvert aujourd'hui même.
Oui, avec un nombre de visiteurs limité, mais attention, la vue se mérite. Hein. Sans ascenseur, les deux premiers étages, surtout par 35 degrés aujourd'hui, et qui plus est, avec masque obligatoire. Un reportage à l'assaut des escaliers, Marion Gauthier.
Encore des escaliers à monter.
Plus que quelques marches et Léo lève le nez.
C'était un peu dur. Quand on était au soleil en bas, on transpirait.
Pour eux, c'est plus simple parce que le masque pour monter les escaliers, sorti de confinement, c'est compliqué.
Mais la vue est d'autant plus belle et le père de famille a attendu cette date du 25 juin.
Pour marquer le coup, quoi. C'est comme le symbole de Paris. Le redémarrage de la France, du confinement, la fin du Covid, pour eux, c'était assez marquant. Donc le fait que de sortir de tout ça, de redémarrer la vie, c'est important.
Ce redémarrage sera progressif. Pour l'instant, l'ascension s'arrête au deuxième étage, mais c'est bien assez haut pour Pascal.
Voilà, de toute façon, j'avais tout donné. J'avais plus rien dans le coffre. Regardez les petits jardins partout sur les toits, c'est pas mal. Hein.
Et même le directeur général de la Tour Eiffel, Patrick Branco-Ruivo, ne s'en lasse pas. Il faut dire que la chaleur se fait moins écrasante à mesure que la vue se dégage.
Quand vous êtes à l'intérieur des escaliers, vous voyez aussi la structure de l'intérieur. Et donc je pense que quand on passe par les escaliers, on connaît mieux la Tour Eiffel.
Après sa fermeture la plus longue en temps de paix, la Dame de Fer devrait accueillir 12 000 visiteurs par jour cet été. C'est moitié moins que les années précédentes.
Marion Gauthier, dans les escaliers surchauffés donc de la Tour Eiffel. Et puis eux ont rejoué au ballon. Aujourd'hui, les joueurs du PSG ont repris l'entraînement sur le terrain, mais en petit groupe, avec en ligne de mire les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France fin juillet. Et puis du côté de Marseille, à l'OM, la reprise, là, c'est demain.
Voilà, ça c'est encourageant. Le journal de Sébastien Krebs, merci à vous. Vous revenez évidemment à 18h30 avec de nouvelles infos. Et le temps d'Anissa, eh ben, ça y est, hein, les nuages de plus en plus nombreux.
Ouais, effectivement, on va très vite voir la différence hein, demain quand on va lever les yeux vers le ciel, puisque dans la matinée, sur les Hauts-de-France, sur les Ardennes et sur la région parisienne, eh bien là le ciel est assez couvert. Des nuages bien gris, avec dès le début de journée d'ailleurs sur le quart nord-est, eh bien des averses, de la pluie, hein, effectivement. Et puis sur le reste du pays, sur toute la moitié ouest du pays, c'est un ciel qui est partagé entre nuages et éclaircies tout au long de la matinée. Alors dans l'après-midi,
on change totalement de scénario puisque les orages arrivent, ils envahissent la France et ils vont éclater sur tout le pays sauf au bord de la Méditerranée. Il n'y a finalement qu'au bord de la Grande Bleue que vous aurez un temps sec et ensoleillé demain. Partout ailleurs, des averses, des orages localement violents sur le Pays Basque, le Limousin, l'Auvergne et le Centre-Val de Loire. Demain, les orages seront accompagnés de grêles et de vents forts jusqu'à 100 km/h. Les températures, elles sont encore douces demain matin avec 13 à 21 degrés en moyenne, 13 pour Épinal, 17 à Nantes, Clermont-Ferrand et Belfort, 19 à Biarritz, 21 degrés déjà demain matin dans Paris. Et puis dans l'après-midi, nous aurons une grande amplitude puisque nous aurons 20 à 34 degrés, 20 à 23 au nord-ouest, 25 à 30 sur l'ensemble du pays et jusqu'à 34 dans la moitié sud. Europe 1.